This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
حاليا راديو روزانا في باريس.
Madonna has a global update
from CNN Radio 7.
Radio Dacia.
O Brasil quer se quinta.
Turquia fatura.
Slava Russia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Tunisie pour les élections législatives. Reportage sur place de Thibaut Cavaillès. Au Qatar pour la fabrique du Nouveau Monde. L'édito d'Alain Frachon sur la politisation extrême du dossier Ebola aux États-Unis. Le pays est en pleine campagne électorale en vue des élections de mi-mandat. Et tout de suite, direction l'Europe et la relation transatlantique.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Le traité de libre-échange transatlantique est en cours de négociation. C'est à la fin de l'année 2014, dans quelques petits mois donc, que les parties prenantes américaines et européennes devraient rendre leur copie. Cette négociation a rapidement pris une tournure politique du fait de l'opacité absolue qui l'entoure, aujourd'hui encore, même si des éléments ont opportunément fuité dans la presse ou ont été rendus publics et sont donc désormais accessibles à tous. Bonsoir Pascal Lamy.
Bonsoir.
Vous avez longtemps diriger l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Une question de méthode pour commencer. Pourquoi à chaque fois, sur des textes aussi importants, tout se fait dans le dos du public, alors qu'en dernière instance, si je ne me trompe pas, c'est quand même lui qui est concerné?
C'est un des problèmes de cette négociation qui est loin d'être un traité. Et je vous rassure tout de suite, ce ne sera jamais terminé à la fin 2014.
Ça, c'est sûr et certain,
c'est
déjà.
C'est sûr et certain.
C'est trop complexe ?
Absolument. Non, ceci étant, c'est vrai que c'est une négociation qui, en tout cas de mon point de vue, fait du sens. Hein, parce que aujourd'hui, les voitures européennes ont des petits pare-chocs, les voitures américaines ont des gros pare-chocs. Si les voitures européennes et américaines avaient tous les deux des pare-chocs moyens, les voitures seraient moins chères. Ce serait bon pour tout le monde. Les Européens ont une norme de maximum de résidus de pesticides dans les fleurs. Les Américains en ont une autre. Si je suis exportateur africain de fleurs, moi, je préférerais que la norme soit la même parce que ça me faciliterait la vie. Donc tout ça, ça fait du sens. Mais, ça a été extrêmement mal expliqué, présenté.
Mais ça a été caché même.
Là, je vous trouve un peu sévère.
Oui, hein. Mais enfin, c'est vrai que vous dites.
Il est vrai que les États membres de l'Union, et j'ai compris que ce n'était pas forcément la position de la Commission à l'époque, ont refusé, par exemple, de publier le mandat de négociation. Erreur grossière. S'il s'agissait d'une vieille négociation classique où vous produisez des vélos et moi de la ferraille et on va tous les deux réduire nos droits de douane parce que ça fait des vélos moins chers et de la ferraille moins chère, c'est pas tellement un problème. Là, on est dans le domaine de l'administration de la précaution. On est dans des normes, on est dans des standards, on est dans des choses qui protègent le consommateur. Et mon sentiment, et je l'ai dit publiquement d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est que plus on touche, plus on va près de la précaution, donc de choses qui sont très sensibles, plus on doit être transparent. Étant entendu qu'il y a évidemment des sujets sur lesquels les Européens et les Américains ne se mettront pas d'accord parce que les Américains mangent de la bouffe avec des OGM alors que les Européens n'en veulent pas. Et ce n'est pas une négociation comme celle-là qui va régler ça.
Encore deux questions sur ce sujet-là. Il a fallu que les politiques, certains d'entre eux en tout cas, certains partis politiques, mettent un grand coup de projecteur pour que les citoyens d'Europe s'aperçoivent que ça négociait entre soi, sans mandat clair et précis. À quoi ça sert de se lamenter de la montée du populisme si on nourrit ainsi la théorie du complot?
Là, je vous trouve un peu sévère. Le Parlement, qui est-ce qui à quel niveau se fait cette négociation? Elle se fait au niveau européen. Au niveau européen, vous avez le négociateur, qui est le commissaire européen. Il rend des comptes à deux chambres, le Conseil des États et le Parlement européen. Mais la commission du Parlement européen qui s'occupe de négociations internationales, elle est parfaitement informée de tout cela. Simplement, c'est vrai que ça se passe au Parlement européen et pas au Parlement français parce que la politique commerciale extérieure de l'Union, elle est fédéralisée depuis d'ailleurs le traité de Rome. Hein, ça date pas de.
Mais en tout cas, on est d'accord, Pascal Lamy, que ça a été mal emmanché.
Ça, je suis d'accord. Là-dessus, je vous donne totalement raison. Ça a été mal présenté et je pense que de part et d'autre, d'ailleurs, il y a exactement le même problème aux États-Unis. Hein, si vous regardez la réaction d'une partie de l'opinion publique américaine et vous la comparez à une partie de l'opinion publique allemande, Hein, et je prends l'exemple allemand parce que, évidemment, on ne peut pas les soupçonner d'être protectionnistes, de ne pas être pour la réduction des obstacles aux échanges. Il y a les mêmes réactions des deux côtés qui viennent du fait que les négociateurs n'ont pas anticipé qu'ils étaient sur un terrain nouveau, important pour l'avenir, parce qu'effectivement, il y aura des gains d'efficience et il y aura des bénéfices pour le consommateur à faire les choses de la même manière. Mais, si je puis dire, il faut prendre beaucoup de précautions quand on est dans le domaine de la précaution.
On est d'accord. Et est-ce qu'il ne faut pas repolitiser ces questions d'économie au lieu de les laisser entre les mains de négociateurs au mandat inexistant pour commencer, secret pour finir, révélé enfin ?
Inexistant. Il y a un mandat secret, je l'ai dit, je suis d'accord avec vous, ils auraient dû rendre le mandat public, mais c'est une négociation, encore une fois, politique. Le commissaire européen, il va systématiquement devant le Conseil des États membres et au Parlement européen. Le Conseil des États membres, c'est des ministres qui sont, si je puis dire, élus dans leur pays. Le Parlement européen, c'est des gens qui sont élus pour siéger au Parlement européen. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas politique. J'ai été commissaire européen au commerce entre 1999 et 2005. J'ai fait de la politique à 60% de mon temps et de la technique à 40% de mon temps.
Est-ce qu'on peut dire, Pascal Lamy, sur le fond philosophique de l'affaire, qu'il s'agit là maintenant de réfléchir aux moyens d'aller un cran plus loin dans le libre-échange généralisé entre les deux rives de l'Atlantique ?
Disons, dans l'ouverture des échanges, je n'aime pas cette expression de libre-échange parce que l'échange n'est pas libre. Les fleurs qui sont importées par l'Europe, elles doivent respecter des standards sanitaires qui font que s'ils ne les remplissent pas, elles ne rentrent pas. Ça n'est pas libre. Si les Américains veulent exporter du poulet OGM en Europe, ça ne rentrera pas. Donc, c'est pas du libre-échange.
La question derrière la question, c'est qu'il y a des normes qui risquent d'être vues peut-être à la baisse.
Et
on ne le sait pas.
Et c'est tout le problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai conseillé discrètement, puisque je n'ai plus de fonction officielle dans ce domaine, aux deux côtés, de dire tout de suite, s'il y a des différences dans le niveau de la précaution entre les États-Unis et l'Europe, et il y en a, et attention, ils ne sont pas toujours dans le sens où les Européens le croient. Hein, les Américains n'ont pas de voiture diesel parce que c'est mauvais pour l'environnement. Hein. Bon, faut pas rentrer dans,
oui,
dans ce syndrome.
Bilatéral. Il faut
pas
bilatéral.
Rentrer dans ce syndrome que l'Europe est prenne de précaution et
les Américains
plein
non.
de risques.
Oui. Bon.
Mais disons, dans le cas où il y a une différence dans le niveau de précaution, de deux choses l'une, où on n'y touche pas, où on s'aligne sur le niveau le plus élevé de chacun des côtés. Et à mon avis, c'est comme ça que ça terminera. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne se terminera pas en 2014, mais peut-être en 2018, 19 ou 20, parce que ça prendra du temps.
Et vous êtes certain, Pascal Lamy, d'avoir chuchoté ça aux bonnes oreilles pour que la question du mieux-disant en termes de normes l'emporte ?
Je ne suis pas sûr d'avoir convaincu, mais je pense que politiquement, c'est comme ça que ça se terminera, y compris sur des sujets sociaux et environnementaux, dans lesquels, si cet accord était conclu entre l'Europe et les États-Unis, ça deviendrait une référence extrêmement importante pour le reste du monde. Hein ? Et il y a, dans l'idée que les Européens et les Américains se mettent d'accord sur un standard de précaution commun, et ce sont les deux économies les plus sophistiquées sur cette planète aujourd'hui, il y a quelque chose de positif pour nous, Européens, qui croyons à nos valeurs. Parce que dans un certain nombre de cas, les Chinois, les Coréens, les Brésiliens, les Indiens devront en quelque sorte adopter ce standard de fait qui est aujourd'hui plus élevé que ceux qu'ils pratiquent. Donc, il y a pour vous vouliez parler de philosophie, il y a quelque chose d'un peu philosophique derrière ça qui tient aux valeurs qui sont les nôtres et dont nous aimerions autant que possible les faire partager avec le reste du monde.
Pascal Lamy, vous l'avez dit, la négociation va être longue, peut-être même très longue. Est-ce qu'elle peut capoter ?
Une négociation peut toujours capoter à deux stades. Soit les négociateurs ne se mettent pas d'accord et ils renoncent. Soit les négociateurs se mettent d'accord, mais il faut que ce soit ratifié dans un cas par le Parlement européen et par le Conseil des États, dans l'autre cas par le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis. Et il est arrivé, et notamment dans le cas américain d'ailleurs, que des choses qui avaient été agréées entre négociateurs ne soient pas ratifiées par les parlements. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à la commission celle qui est sortante. Mmh. Ils avaient négocié un accord sur la propriété intellectuelle qui renforçait, dans un certain point de vue, la lutte contre la contrefaçon. Ceci avait des impacts possibles ailleurs. Le Parlement européen a refusé de ratifier ce que le commissaire européen avait négocié. C'est pas très agréable. Moi, ça m'est pas arrivé quand j'étais commissaire, mais c'est la réalité politique.
Mmh. Donc, ça peut échouer.
Absolument.
Quelle est votre position sur la question ultra technique de ces fameux tribunaux privés, de l'arbitrage, qu'on pourrait résumer de la manière suivante. Dans certains cas, une multinationale, pour le dire dans les termes du débat public, peut se passer de la justice d'un État avec lequel elle est en conflit et donc recourir à des tribunaux ad hoc, privés, arbitraux.
Bon, c'est une affaire très compliquée. En gros, si une entreprise estime que ses intérêts sont lésés par une décision de la puissance publique, aujourd'hui, une entreprise européenne ou américaine va devant les tribunaux européens ou américains. Et si une entreprise européenne implantée aux États-Unis considère qu'une décision de l'administration américaine lèse ses intérêts, elle va aller devant les tribunaux américains. Bon. Donc en théorie, il n'y a pas de problème, il y a des recours.
Jusque-là, tout va bien.
Jusque-là, tout va bien, sauf que les critères qu'utilisent les tribunaux européens dans un cas et les tribunaux américains dans l'autre, pour juger si les entreprises sont ou non lésées, ne sont pas les mêmes. Pour des raisons qui tiennent au fait que les législations sont différentes, les histoires sont différentes. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas égaliser les critères de telle sorte que chacun sache bien à quoi s'en tenir, ce qui favoriserait les investissements. Bon. Moi, personnellement, je trouve que ça se défend sur le plan technique, ça va un petit peu loin sur le plan politique. Mais par contre, je pense que si l'Union européenne signe un traité d'investissement avec un pays, disons, pas très évolué et dans lequel il peut y avoir de la corruption ou les tribunaux sont soumis à des influences, à ce moment-là, j'hésiterai pas une seconde. Parce que le bon moyen de défendre les intérêts des entreprises européennes, c'est effectivement de recourir un dispositif juridique spécialisé pour pas tomber.
Oui, mais là on est d'accord que c'est pas le cas entre l'Europe et les États-Unis.
Ça n'est pas le cas. On est d'accord, mais attention, si on ne le fait pas avec les États-Unis et qu'on le fait avec les autres, on dit aux États-Unis bon, en gros, on se fait confiance. Mais je suis pas totalement sûr que moi je ferais totalement confiance aux tribunaux américains. Hein. Ce système dans lequel les procureurs et les juges sont élus, moi je trouve que ça a des effets sur la pratique judiciaire américaine dont un certain nombre me pose problème.
Et alors, pourquoi ne pas chercher à harmoniser les systèmes judiciaires plutôt que de passer par une bretelle de contournement du problème?
Parce que c'est un peu le marteau-pilon pour écraser la mouche. Changer les systèmes judiciaires, les
harmoniser, vous avez dit, on a 5, 6, 7, 8, 10 ans devant nous.
Là, on est dans des choses très très profondes. Si vous regardez comment la Cour suprême interprète la Constitution américaine sur les questions, par exemple, de liberté publique et pourquoi ils donnent à tout le monde le droit de porter un flingue, pourquoi ils ont gardé la peine de mort, on va pas ajuster ça. Hein. Ça, c'est des choses profondes. Donc, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Je trouve que là aussi, ça n'a pas été bien expliqué. Bon, il faut dire que c'est un peu compliqué. On vient déjà d'y passer.
Oui, enfin, on vient d'y passer ensemble. Quelques minutes et j'ai pas l'impression que la conversation était d'une complexité telle qu'un citoyen ne puisse la comprendre.
Parce que c'est votre métier et parce que j'essaye de m'ajuster à votre métier.
À mon niveau intellectuel.
À votre manière de présenter les choses à vos auditeurs. Mais c'est vrai que si vous demandez au commissaire européen ou au négociateur américain d'aller expliquer ça en 20 secondes à la télé, c'est impossible.
Non mais on peut en prendre 10, 15, 20, 30 sur des sujets qui concernent les citoyens européens.
D'accord.
On revient toujours à cette même question, Pascal Lamy, de l'écart de plus en plus grand qu'il y a entre les citoyens d'Europe et l'Europe en elle-même. Elle creuse quand même sa tombe avec un acharnement réjouissant. Hein.
D'accord avec vous sur le fait qu'il y a un énorme déficit de pédagogie, de connaissances, de compréhension et que les institutions européennes sont en partie responsables de cela, même si, faut être franc, c'est quand même beaucoup plus le cas dans notre pays, pour des raisons historiques, que ça ne l'est chez nos amis belges, italiens, allemands ou espagnols.
Alors partons précisément en Europe, même si on y était déjà. Pourquoi reste-t-elle, d'après vous, encalminée dans la crise économique ?
Il y a des raisons de long terme, il y a des raisons de court terme. Il y a des raisons de long terme qui expliquent disons que par rapport aux autres continents, l'Europe sera plus faible dans les décennies qui viennent. Hein, la première étant que c'est le seul continent, avec le Japon, qui n'est pas un continent dans lequel la population rétrécit. Et ça, à long terme, c'est un problème. Alors, pour nous, Français, on ne voit pas ça parce que nous sommes une exception de ce point de vue-là en Europe. Mais pour bien comprendre la position des Allemands, par exemple, sur la question de savoir quelle est la charge de la dette qu'on lègue à nos enfants, à nos petits-enfants, quand on a dans la tête que la population rétrécit, on ne réagit pas pareil. Bon. Ça, c'est le premier problème de long terme. Deuxième problème de long terme, on est faible sur le plan des prix énergétiques et on n'est pas assez avancé dans la transition énergétique pour avoir fait de cette contrainte un avantage. Et là, ça, c'est quelque chose auquel on peut toucher. La démographie, on n'y touchera pas beaucoup, sauf à accepter davantage d'immigration. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais bon, si on est politiquement réaliste, ce n'est pas non plus ce que les Européens réclament pour l'instant. Et puis, il y a un problème sur lequel on peut quelque chose à long terme, mais qui est quand même le fait que l'Europe, sur la frontière technologique, a perdu du terrain depuis 20 ans. Quand on regarde les nouveaux services, les nouveaux produits, il y a Apple, Google, Facebook, Amazon, c'est pas nous. Alors qu'on a les ressources scientifiques, et ça... Il y a un problème là qu'il faut traiter.
Mais qui est de nature psychanalytique, non, même si on ne va pas allonger un continent sur un divan.
Pas seulement, c'est aussi parce que nous éparpillons trop les moyens de recherche que nous déployons, qu'il s'agisse de la recherche publique ou de la recherche privée. Nous sommes encore balkanisés en matière de recherche. Aux États-Unis, ils mettent un paquet sur un endroit et roulent sur un marché de 200 à 300 millions de consommateurs. Nous, nous sommes balkanisés alors qu'on a un marché de 500 millions de consommateurs qui est plus gros que le leur. Donc, en réalité, nous ne tirons pas de ce point de vue-là avantage de ce qui fait notre force, qui est notre nombre.
Alors voilà pour les raisons de long terme, disiez-vous, Pascal Lamy. Quelles sont les raisons conjoncturelles qui expliquent que l'Europe soit dans le fossé là ?
Il y a des raisons de court terme qui tiennent au fait que le système bancaire européen n'est pas encore en bon état.
Vous pouvez nous le dire sans euphémisme.
Il y a encore trop de banques fragiles en Europe pour
vraiment
que les mécanismes du circuit financier, et notamment d'alimentation du circuit économique et des entreprises, aient repris ce qu'il était avant 2008.
Nos banques sont en crise larvée, latente.
Nos banques sont plus lourdement chargées en crédit de qualité moyenne que d'autres, et notamment tout simplement parce que nos banques sont, en Europe, plus chargées de crédit qu'ailleurs. Aux États-Unis, une banque fait un crédit à une entreprise, elle package le truc et elle le refile sur le marché financier comme un produit, comme une obligation ou une action.
Bon, on a vu ce que ça pouvait donner dans le pire des cas.
Absolument,
hein.
Mais les Européens ont beaucoup de crédits dans le système bancaire. Bon. Et ça suppose... Ça prend du temps, ça suppose une politique monétaire très accommodante. Je crois que la Banque Centrale Européenne est vraiment sur cette ligne. Elle n'a jamais été aussi accommodante. Mais ça va prendre un peu de temps. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des tests qui sont faits sur la qualité des bilans bancaires, dont les résultats vont apparaître prochainement.
Donc regarder ça de très très près.
Absolument. Bon, et alors, donc ça c'est un problème qui nous différencie, si je puis dire, des autres. Et puis par ailleurs, il y a des situations en termes de marché du travail, en termes de situations des marchés de biens et de services qui sont très différentes. Ça, c'est pas un problème qu'on peut traiter au niveau européen. Les problèmes qui font que la France a perdu de la compétitivité depuis des ans, ce n'est pas des questions européennes, c'est des questions franco-françaises. Il faut faire des réformes. Je pense que le Premier ministre et Emmanuel Macron sont convaincus de ça. Reste à convaincre que faire ces réformes, ça va apporter des bonnes nouvelles aux Français et pas des mauvaises nouvelles.
Il y a encore à faire. Et quand économistes et politistes, économistes et politiques, certains, là encore, soulignent depuis longtemps qu'on va droit dans le mur avec cette réduction forcenée des déficits publics. Pourquoi continuer ? On voit le continent ralentir et s'arrêter.
Nicolas Demorand, ne tombons pas dans la caricature.
Non, mais je vous pose une question sincère.
Il n'y a pas de réduction forcenée des déficits publics. la réduction des déficits publics en Europe se fait lentement par rapport à ce qui a été fait en Grande-Bretagne, au Canada dans les années 80 et même aux États-Unis en ce moment, parce qu'ils ont, disons, un effet de levier fiscal différent.
Est-ce le bon moment pour le faire ?
Nous ne pouvons pas léguer à nos enfants un pays dont la dette est égale au montant de sa richesse. Ça n'est pas possible, ça. Trop de dettes tue l'économie. Aujourd'hui, en France, une grande partie des moyens de l'État sont consacrés à rembourser des dettes qui sont le résultat des déficits qu'on a fait.
Réduire les dépenses, Pascal Lamy, et ce sera malheureusement ma dernière question, réduire les dépenses ne relance pas l'économie, hein.
Ça dépend.
Oui, ça dépend. Si on regarde la France et un certain nombre d'autres pays, ce n'est pas le cas.
Si moi, je veux investir en France, j'investirai plus volontiers si je sais que l'État gère correctement les finances des Français que si je pense le contraire. Étant français ou étant étranger, une bonne gestion des finances publiques, c'est un argument pro-croissance, de mon point de vue.
Oui, d'accord, mais économiquement, est-ce que ça marche, là ?
Non. Mais bien sûr, parce
que... Le chômage, la crise...
Mais non, écoutez, la France n'est pas en récession, malgré... une cure de réduction de la dépense publique qu'on a attendue. Il a fallu attendre 40 ans pour que ça se passe. Hein, et je pense d'ailleurs qu'il faut vraiment créditer, et même sans parti pris politique, créditer les gouvernements actuels de faire enfin le boulot. Alors évidemment, celui qui fait ça, le boulot, n'est pas populaire. Mais il faut le faire, ce boulot.
Et donc, vous pensez que ça finira par marcher ? Si oui, quand ?
Je pense que ça finira par marcher, à condition que ceci soit accompagné d'un certain nombre de réformes structurelles. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement essaie de faire, parce que ça n'est pas la dette française qui est le problème essentiel de la compétitivité française. Ceci ressort d'autres politiques.
Quand ?
Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est forcément long et lent, parce que quand on a accumulé des déficits pendant 40 ans sans exception... L'addition ne peut pas se payer en 2 jours ou en 3 jours.
Merci Pascal Lamy. Quand la France s'éveillera, c'est le titre de votre dernier livre chez Odile Jacob. Il n'y a pas de point d'interrogation. Hein. Ce n'est pas quand la France s'éveillera-t-elle. C'est le moment où la France s'éveillera. Hein.
Je suis de ce point de vue optimiste.
Merci à vous d'avoir été au micro d'Un jour dans le monde. Pascal Lamy, à suivre les législatives en Tunisie. Reportage sur place de Thibaut Cavaillès. Tough Love, après le Tough Job avec l'ami Jesse Ware. Jesse Ware, Tough Love. Il est 18h40, vous écoutez Inter, un jour dans le monde. Direction la Tunisie.
Tir de grenade lacrymogène.
La révolte égyptienne vire à la guerre civile.
Manifestation, heurts, arrestations, censure.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
La Tunisie, 24 heures avec un candidat aux élections législatives qui se dérouleront ce dimanche. Un scrutin dont l'enjeu est évidemment de parfaire la jeune démocratie tunisienne. Mais avec un paradoxe ou au moins une particularité, la campagne a aussi vu le retour en politique des anciens bénalistes. Thibaut Cavaillès a suivi Abès Morzène, maire de Tunis de 2000 à 2010. Il était membre du comité central du RCD, le parti unique de Ben Ali. Ce même RCD auxquels les Tunisiens ont dit « dégage » en 2011. Aujourd'hui, Abès Morzène se présente sur la liste du parti Moubadara à Tunis. C'est une liste commune avec un autre parti se revendiquant lui d'Habib Bourguiba, mais aussi un peu de Ben Ali. Reportage.
Vas-y, fonce, fonce, fonce. Tu prends la tête du corrige, absolument.
Ça, si je me trompe, tout le monde se trompe.
Où est-ce que nous allons, là ?
Nous allons à Zahrouni, c'est ainsi que s'appelle le quartier.
Quel type de quartier est-ce ?
C'est un quartier de classe moyenne.
C'est un quartier que vous maîtrisez déjà, votre parti, ou il faut aller convaincre des gens de voter pour vous ?
C'est-à-dire que ce sont des quartiers que personne ne maîtrise. Car vous savez qu'il y a eu un fractionnement de la société politique consécutif aux événements, à la révolution ou au soulèvement du 14 juillet 2011. 14 janvier 2011.
Oh, voilà, nous y sommes.
Nous sommes tous des enfants de Bourguiba. Nous avons travaillé ensemble depuis des années. On est responsable de tout ce que nous avons fait. Bon ou mauvais, et j'espère que les bonnes choses sont plus importantes que les mauvaises. Nous sommes responsables de l'histoire de notre pays. Nous sommes des gens qui ne nions pas les leçons de l'histoire. Nous allons reprendre les choses en main, mais dans le bon sens.
Nous on l'aime, monsieur Abès. C'est monsieur Abès ou rien, parce qu'il est bon. Il va aider le pays. Il travaille pour le bien de la Tunisie. Vive monsieur Abès!
Moi, je suis Moussa Al-Boufatah, le coordinateur régional du parti Moubadara, et je regrette vraiment que Ben Ali est parti. Et ce n'est pas une révolution pour nous.
Mais sous Ben Ali, vous n'auriez pas pu parler à un journaliste étranger comme vous le faites là.
Mais nous, on s'en fout de la liberté de parler et machin. Et nous, on va vivre comme des rats dans notre pays, dans nos maisons, à cause de ces islamistes qui vont détruire notre pays. Pour nous, on veut un dictateur. Il y a des gens qui pleurent pour Ben Ali.
Je vous en prie, installez-vous donc.
Donc là, on est chez vous, monsieur Morsen. Une belle maison, simple, assez grande, en plein cœur de Tunis,
oui.
Juste à deux pas du centre-ville. La première chose que je vois, c'est cette photo avec Jacques Chirac.
Oui, c'est une photo qui a été prise à Paris, au palais de l'Élysée. Et il m'a fait l'honneur de cette photo avec lui.
Vous continuez à nous montrer les photos qu'il y a dans votre salon ?
Bien sûr. Ça, c'est une photo qui représente la prestation de serment de Ben Ali le 7 novembre 1987.
Donc c'est le jour où il a pris le pouvoir.
Absolument.
On vous voit derrière en tenue,
en uniforme de gouverneur.
Et là, à nouveau, une autre photo avec Ben Ali.
Une autre photo avec Ben Ali où il doit me remettre des lettres de créance pour, sans doute à l'occasion d'une nomination d'ambassadeur, je ne sais plus laquelle.
Vous saviez que j'allais venir aujourd'hui vous rencontrer chez vous, vous interviewer. Vous n'avez pas enlevé ces photos, vous ne les avez pas cachées.
Je pense qu'il n'y a pas de... D'abord, par respect de soi-même, on ne se renie pas. Cacher des photos n'aurait rien caché de mon passé. J'ai une part de responsabilité, ce n'est pas nécessairement la plus grande. J'ai sans doute péché en acceptant ce système.
Mais vous étiez au courant aussi des abus commis par le parti et la famille Ben Ali. Il y a eu des cas de torture, tout était su dans le parti à l'époque.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant de cas de torture qu'on veut bien le dire, franchement.
Les emprisonnements abusifs d'opposants islamistes notamment, 15 ans de prison pour certains, sans forcément qu'ils aient commis des actes répréhensibles, ça aussi c'était des abus.
Les islamistes non plus n'étaient pas détendres. N'oublions pas qu'ils ont vitriolé des gens, qu'ils ont défiguré des gens, qu'ils ont fait avaler de l'acide à un imam et qui en est mort, évidemment, l'acide n'étant pas fait pour être ingéré.
Tous les militants d'Ennahda n'étaient pas des terroristes.
Sans doute pas. Mais ils étaient suffisamment nombreux et suffisamment voyants pour constituer autour d'Ennahda suffisamment de suspicions pour que le pouvoir ne résiste pas à la tentation d'élargir la plaie, malheureusement.
Je voterai pour vous, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde, si seulement vous pouviez nous sortir de la précarité.
Alors parfois on entend des vives Ben Ali sur votre passage, mais aussi des dégages. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
C'est toute la diversité de la société tunisienne et la déculpabilisation partielle de Ben Ali.
Vous, monsieur, vous venez de voir passer le candidat, là, Abbes Morsen, historien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a appartenu au RCD, donc je n'en veux pas. Ce parti a commis beaucoup trop d'exactions. Ils ont toujours réprimé les Tunisiens. Je ne pense pas que ces gens-là puissent devenir propres du jour au lendemain. Impossible. Vous croyez qu'au bout de 50 ans de répression, ils vont tout à coup changer et vouloir servir l'intérêt du peuple?
Est-ce que ça n'est pas un manque de respect envers les révolutionnaires et ceux qui ont perdu la vie que de voir des banalistes revenir sur la scène politique?
Nous sommes des gens qui avons compris la leçon. Ce qui serait une insulte à ceux qui ont perdu la vie, ça serait qu'un pouvoir de revanchards s'installe, qui prétende effacer tout ce qui a été fait, tous les acquis de la révolution, car il y en a.
Aujourd'hui, les Tunisiens demandent un retour de l'État, parce que ça fait 3 ans que c'est un petit peu chaotique dans le pays, avec des déchets un peu partout, une insécurité grandissante. Est-ce que vous surfez un petit peu sur cette vague Ben Ali Bourguiba qui était des hommes d'État?
Oui, je surfe absolument sur cette vague du retour de l'État dans notre vie quotidienne, mais l'État ne veut pas dire la torture, ne veut pas dire des arrestations arbitraires, ne veut pas dire faire disparaître ses adversaires politiques. Mais si je voulais être vache, je vous dirais peut-être qu'il faudrait commencer à se demander pourquoi est-ce que Bourguiba a choisi le modèle dictatorial.
Alors ?
Je ne sais pas, c'est à vous de répondre.
Question ouverte donc à la fin de ce reportage de Thibaut Cavaillès à Tunis. 18h48, glanez sur Internet ce papier du très bon blog Bits du New York Times consacré au business de la technologie et plus largement à tous les aspects de la vie numérique. Jenna Wortham, dans ce poste de blog, essaye d'analyser le rapport qu'elle entretient elle-même avec son smartphone. Un rapport vorace, elle avoue. S'en servir tout le temps, son smartphone est le premier objet qu'elle prend en main en se réveillant le matin et le dernier qu'elle lâche en se couchant le soir. Elle a un peu honte de considérer son téléphone comme une bonne béquille pour éviter par exemple de parler à des gens qu'elle ne connaît pas pendant une soirée. Jenna Wortham admet aussi combien elle est joyeusement distraite par les rafales de vibrations et d'alertes émises par son téléphone. Elle n'y résiste pas et peut même sortir d'une conversation pour voir ce qui se passe sur son écran. Bref, que faire et que penser de cette addiction? Réponse avec des applications qui permettent de mesurer le temps que vous passez avec votre smartphone ou le nombre de fois que vous l'allumez dans une journée. Jenna Wortham cite Moment et Checky, deux applications qui ont connu un succès foudroyant ces derniers temps. Alors, entretenant le même rapport à mon téléphone qu'un enfant à son doudou, j'ai donc téléchargé hier ces applications et là, ce fut le drame. J'ai sollicité 67 fois mon portable hier et passé 144 minutes dessus pendant la journée. Que faire de ces statistiques, demande Jenna Wortham, qui déplore d'ailleurs qu'elles ne soient pas assez précises et n'indique pas, par exemple, à quoi est passé tout ce temps de portable disponible. Tentez l'expérience, si vous en avez le temps, en méditant les propos du créateur de l'une de ces applications, qui souligne combien il est, ironique de créer une application pour smartphone permettant de mesurer son addiction au smartphone. Et j'ajoute, une addiction à ces applications, sur lesquelles je passe maintenant une bonne partie de mon temps, à mesurer le temps que je passe avec mon smartphone. C'est à lire évidemment sur votre téléphone, ce post du blog Bits du New York Times. Et à 18h50 sur Inter, la fabrique du Nouveau Monde, toute cette semaine entre les mains des correspondants à l'étranger. Aujourd'hui, le Qatar et l'association Educate a Child, éduquer un enfant, dont le but est de scolariser 57 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école primaire dans le monde. L'association a été fondée par la femme de l'ancien émir et mère de l'émir actuel, Sheikha Moza Bint Nasser. Son portrait avec notre correspondante à Doha, Lakshmi Lotha.
C'est d'abord sa prestance et son élégance qui marquent ceux qui rencontrent Sheikha Moza pour la première fois. En robe Chanel ou Dior, très ajustée, aux couleurs vives, elle porte un léger voile ou un turban assorti à ses tenues haute couture et qui laisse toujours apparaître ses cheveux. L'ancienne première dame qatarienne se démarque fortement de celles qui l'ont précédée. Elle sort, se montre aux côtés de son mari, prend la parole en public, répond à des interviews, s'engage. La deuxième épouse de l'ancien émir du Qatar a décidé de ne pas rester derrière les murs de son palais. Et pour les jeunes femmes qatariennes comme Dana, 25 ans, Sheikha Moza est une source d'inspiration.
Bien sûr qu'elle est une source d'inspiration pour nous. Ce qu'elle fait prouve aux yeux de tous tout ce qu'une femme peut faire. Parce que dans le monde arabe, vous savez, on considère que les femmes sont faibles. Qu'elles sont incapables de réaliser de belles choses. Sheikha Moza est maintenant connue dans le monde entier pour son travail et son engagement. Et cela inspire les femmes du monde arabe pour que nous aussi, nous fassions quelque chose de grand, comme aider les enfants.
Anoud et Nouf sont deux étudiantes qui portent l'abaya, la robe noire traditionnelle des femmes qatariennes. Elles admirent surtout l'apparence de Sheikha Moza qui les représente à l'étranger.
Yeah, she's a beauty.
Elle est si belle, elle est superbe, magnifique, unique. C'est une vraie princesse. Son visage est gracieux et elle a le plus beau sourire du monde. J'aime ma Sheikha. Vous savez, certaines personnes me disent que je lui ressemble.
Elle redonne le sourire à toutes les femmes qatariennes.
L'ancienne première dame peut aussi avoir le sourire aux lèvres. Son programme Educate a Child, éduquer un enfant, a déjà permis de scolariser 2 millions d'enfants dans le monde depuis 2012. Sheikha Moza a fait de l'éducation l'un des piliers du développement de son pays. Très tôt, dès 1995, elle lance avec l'émir la Fondation du Qatar, dont elle est toujours la présidente. Une fondation pour l'éducation et la science qui a permis la mise en place d'un grand campus universitaire à Doha. La cité de l'éducation comprend les plus grandes universités américaines comme Carnegie Mellon, Georgetown et de grandes écoles comme HEC. En 2003, Sheikha Moza est nommée envoyée spéciale de l'UNESCO pour l'éducation de base et l'enseignement supérieur. C'est en novembre 2012 qu'elle lance le programme Educate a Child à Doha, Sheikha Moza.
Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ce ne sera jamais assez pour changer les choses. Je rêve de créer une école qui serait un modèle pour tous ces enfants. Nous pouvons le faire, nous pouvons réussir.
Son constat, 57 millions d'enfants dans le monde privés d'école primaire parce qu'ils sont en zone de guerre, en situation de pauvreté, touchés par des catastrophes naturelles ou empêchés de se rendre à l'école par leur famille pour des raisons culturelles. Pour Dana, l'engagement de Sheikha Moza participe aussi au rayonnement du Qatar.
Je suis très fière. C'est l'une des choses dont le Qatar peut vraiment être fier. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde qui ont le pouvoir de changer les choses.
Educate a Child espère pouvoir aider 10 millions d'enfants à retrouver le chemin de l'école d'ici 2016. Lors de la dernière session plénière des Nations Unies sur les objectifs de développement du millénaire, Sheikha Moza a rappelé que chaque dollar investi dans l'éducation de base rapportait en retour entre 10 et 15 dollars. À Doha, Lakshmi Lotha pour France Inter.
Alors ? Non, écoutez Nicolas, soyons cyniques.
Quelle belle idée.
Pas du tout, du tout. Mais quoi ? Il suffit de ne pas perdre pour gagner.
Quelle belle réalité.
Il est 18h55, l'édito d'Alain Frachon. Bonsoir Alain.
Bonsoir Nicolas.
Obama, Ebola, c'est la rime dégueulasse que certains emploient aujourd'hui aux États-Unis.
C'est le reflet, un reflet en tout cas, d'une drôle de campagne. Vous savez, on est en campagne électorale, on vote le mardi 4 novembre pour les élections législatives de mi-mandat. On renouvelle un tiers du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants. La situation économique aux États-Unis ne cesse de s'améliorer. Le plan santé du président est un très grand succès social. Il permet à des millions d'Américains d'accéder à une assurance santé. Pourtant, Barack Obama reste impopulaire. Il est incapable de dessiner, d'exposer une vision de l'avenir, une politique qui mobiliserait son électorat à quelques jours de ce scrutin. Les Républicains, eux,
ont une vision, ils ont une ambition, ils ont un objectif, une ligne, détruire Obama. Et ils s'y tiennent, comme s'ils instruisaient contre lui un procès sans fin, comme si ce président-là souffrait d'une manière d'illégitimité quasi congénitale. Majoritaire à la Chambre, les Républicains font une obstruction systématique. Ils torpillent toutes les initiatives d'Obama. Ils pratiquent une sorte de nihilisme politique primaire. On lui reproche tout. La montée de l'islamisme au Proche-Orient, l'immigration, les ratés de la mondialisation, la météo et, vous l'avez dit, le virus Ebola. Deux cas seulement d'infection aux États-Unis. Mais, voyez-vous, Nicolas, Obama est responsable, bien sûr. C'est Obama qui a laissé rentrer le virus, bien sûr. Mieux, certains sites conservateurs républicains jouent même avec la consonance Obama-Ebola, Ebola-Obama. C'est ce que raconte un correspondant du Financial Times aux États-Unis. Le virus Ebola, qui vient d'Afrique, devient une métaphore d'Obama, dont le père était kényan. Bref, Obama est le virus Ebola. Voilà, voilà un peu ce qui vous donne une tonalité de la campagne. Difficile de ne pas distinguer dans cet acharnement une trace de bon vieux racisme. Pronostic, les Républicains vont très vraisemblablement remporter ces élections de la mi-mandat.
Alain Frachon, merci. Et bonsoir à Stéphane Leneuf.
Bonsoir Nicolas.
Stéphane, vous êtes en direct et à Strasbourg pour Questions d'Europe, le rendez-vous mensuel que vous nous proposez. Quelle est la question ce soir ?
Ben écoutez, une nouvelle commission pour quelle Europe ? Cette commission qui sera demain adoubée par le Parlement européen, cette commission Juncker, sera-t-elle la dernière chance, comme l'a déclaré son nouveau président, ou bien une équipe gagnante au service des citoyens ? C'est la question que nous posons ce soir. J'attends bien sûr vos interventions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr dès 19h20.
Merci Stéphane et rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Quelques infos sur France Inter demain. Dans le 7-9, l'invité de Léa Salamé sera Marion Maréchal-Le Pen, député Front National du Vaucluse. À 8h20, Patrick Cohen recevra lui Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture. Augustin Trapenard dans Boomerang sera lui avec Enki Bilal pour la trilogie Nicopole volume 1, La foire aux immortels et La couleur de l'air. La bande originale de Nagui avec Isabelle Nanty et à tout seigneur, tout honneur, finir avec Un jour dans le monde, 18h15, 19h, d'Irak, d'Iran, de Turquie, de Syrie, les Kurdes s'expriment. Nous essaierons de voir s'ils s'expriment tous du même voix. Dans deux minutes, 19h.